Chapitre 22. L'allée sinueuse mène au pied d'un chalet trapu qui aurait davantage sa place dans les forêts du Montana que sur une côte écossaise. Chris avait remarqué son architecture dès le soir de son arrivée. Une construction en rondin typiquement américaine, au seuil de laquelle une femme, d'une petite soixantaine d'années, l'accueille tout sourire, longs cheveux argentés et châle de cachemire jeté sur ses épaules. « Welcome, my dear !» Heureuse de vous rencontrer enfin pour de bon. Nous n'attendions plus que vous. » Chris vérifie sa montre. « Suis-je en retard, Mrs. Brennan ?»« Absolument pas. Mais lorsqu'il s'agit des conseils, être ponctuel n'est pas suffisant. Ne vous en faites pas, personne ne vous en tiendra rigueur pour votre première fois. » L'intérieur de la résidence est lui aussi teinté d'influences nord-américaines traditionnelles. Des meubles en pin sans fioritures, des fenêtres plus larges que hautes, et des parquets constitués de simples lattes juxtaposées. En lui demandant si son installation à Kilthorpe se passe correctement, Shona Brennan l'entraîne dans un corridor où sont exposées une multitude de toiles ayant pour unique sujet la baie. Non sans talent, selon différents points de vue, à toutes les heures du jour, côtes et landes sont déclinées dans la variété qu'offrent les saisons. Chris interrompt son hôte. « Pardonnez-moi, ces œuvres sont de vous ?»«
Tout à fait, je peins. »
Elles sont très réussies. Vous êtes adorable. L'un des paysages à l'huile retient particulièrement l'attention de Christopher. Une vue nocturne du phare sur fond de mer déchaîné. C'est la seule scène de nuit. En outre, le traitement remarquablement réaliste de la lumière et la perspective lui rappellent précisément ce qu'il a lui-même observé depuis sa véranda. Shona Brennan serait-elle venue peindre chez lui ? En pénétrant dans le salon, Chris est surpris de constater qu'en dépit du silence qui y règne, beaucoup de monde l'attend. Les regards convergent sur lui, étrange assemblée figée, chacun dans une posture sans doute savamment composée, comme pour le portrait officiel d'un conseil d'administration. Rognard salue à la ronde. Voilà donc les ayants droit qui, à eux tous, possèdent la baie. 12 représentants des familles, une moitié d'hommes, l'autre de femmes, qui se partage cette terre particulière. Ce qui fait de lui le 13e membre de ce conseil. Mieux vaut ne pas être superstitieux. Neil Hanford trône dans un fauteuil Chesterfield, près du poêle où rougeoit un feu. Jambes croisées dans un costume bleu marine d'excellente coupe qui le place socialement au-dessus de tous les autres, il tient délicatement sa tasse de thé. Même s'il n'est pas propriétaire du lieu, il a malgré tout l'air d'y être chez lui. Thornton, toujours en kilt, s'est arrogé une banquette de place dans laquelle personne n'est venu le rejoindre. Contrairement à ce que Chris avait supposé lors de leur première rencontre, il maîtrise parfaitement l'usage des coussins dans lesquels il s'est douillettement calé. Rognard reconnaît certains convives aperçus à la taverne le soir de son arrivée. « Navré de vous avoir fait attendre, s'excuse-t-il. Je pensais qu'être à l'heure allait suffire. » Shona Brennan lui indique le dernier fauteuil libre près de la fenêtre. Comme lors de son premier dîner à l'auberge, il n'a pas d'autre choix que de s'installer là où les autres l'ont décidé pour lui. En rejoignant son siège, Chris note que les rideaux des fenêtres qui donnent sur le jardin de derrière sont doublés de filets de pêche. L'alliance entre le tissu d'ameublement et la maille utilitaire surprend. Décidément, les origines des familles s'invitent par les moyens les plus incongrus dans le quotidien de leurs descendants. « Du thé ?» demande la maîtresse de maison. Décliner reviendrait à se distinguer du groupe, ce que Chris ne souhaite pas. Il se résigne. « Avec plaisir, merci. » Elle lui sert une tasse fumante, accompagnée d'un des fameux sablés. Il ne sera pas venu pour rien. Rognard est frappé par le nombre des regards qu'il épie, tout en évitant soigneusement de croiser le sien. Seul Thornton l'observe sans chercher à s'en cacher, avec une évidente bienveillance, voire de la complicité. Hanford, lui, est mal à l'aise et se donne des airs pour tenter de le dissimuler. Shona Brennan avale une gorgée de thé et commence. « Si vous le voulez bien, au nom de tous, je souhaite d'abord la bienvenue à notre nouveau titulaire, M. Christopher Rognard. Puisse votre vie parmi nous être la plus longue et la plus heureuse possible. » En guise de toast, elle lève sa tasse. Chris, qui a déjà failli mourir 2 fois en 2 jours, savoure la portée toute relative du vœu. Il répond cependant aux signes qui lui sont adressés. Un simple coup d'œil lui permet d'évaluer la sincérité aléatoire des intentions de chacun. Si le sourire en coin de Thornton est goguenard, beaucoup d'autres ne témoignent que d'une politesse au contour flou. La maîtresse de maison poursuit.
Puisque c'est le premier conseil auquel assiste M. Regnard, je propose que chacun se présente. Je suis donc Shona Brennan et j'habite le séchoir à poissons. Chris tic, ce qu'elle remarque. Nos maisons portent tout un surnom, souvent en rapport avec leur activité, au temps où nos anciens se sont installés dans la baie, lui précise-t-elle. Ainsi, la mienne avait-elle été construite sur le site de l'ancien séchoir à poissons. La vôtre, Monsieur Regnard, est connue comme étant Chief's House, la maison du chef. Elle invite son voisin à se présenter. James Murray, le four à pain, annonce celui-ci. Je suis le père du jeune Edward, que, si je ne me trompe pas, vous avez déjà rencontré avec son chien. Un bien sympathique garçon. La suivante à parler est Jean Masterson, de la bergerie, timide et trop heureuse que son tour passe rapidement. Puis vient Kenny Turnbull, de l'Oak Tree Taverne. Voilà donc enfin le mari d'Emma, se dit Regnard, l'homme dans les bottes duquel il marche depuis son arrivée et dont le véhicule sent le hall d'un hôtel de luxe. Alexander Reed prend le relais, puis Gillian Dee. Chris est déjà perdu. Même si l'ambiance reste des plus formelles, ce tour de présentation a le mérite d'animer ses participants et de mettre en évidence certaines de leurs interactions. Si Neil Hanford reste isolé dans sa tour d'ivoire, Ferguson, en bon commerçant, échange avec la plupart des autres. L'énumération se poursuit, et si l'avalanche d'informations et de patronymes se révèle indigeste pour Chris, certaines personnalités se détachent malgré tout. À défaut de retenir chaque détail, cela lui permet d'esquisser un semblant de cartographie humaine de la baie. Une caractéristique semble déjà diviser l'assemblée en deux groupes, ceux qui subissent cette réunion et ceux qui voudraient la diriger. Les deux camps paraissent assez équilibrés en nombre. Après avoir religieusement écouté les différents membres, Christopher se renverse doucement dans son fauteuil, décidé à profiter de la suite du spectacle, en se faisant oublier. Il goûte le sablé qui mérite bien sa réputation. Shona Brennan reprend. Nous pouvons à présent commencer cette réunion extraordinaire convoquée à la suite de la tragique disparition de notre chère Linda. Christopher scrute le visage de chacun des participants. Il n'y a que Thornton qui fasse de même. Les autres se concentrent sur le masque qu'ils estiment convenable de porter à l'évocation du drame. Cela va du regard fuyant vers le plafond à la mine contrite avec option main torturée. Regnard remarque cependant qu'une femme s'efforce elle aussi d'analyser la réaction de ses voisins, Kirsty Scottson du lavoir. Il ne serait donc que trois à se demander qui a bien pu éliminer Linda Forsythe. Cela fait-il des autres des suspects, des lâches ou simplement des indifférents? Comme vous le savez, enchaîne Mrs. Brennan, Linda ne laisse aucune descendance. Étant la dernière de sa lignée, conformément à notre règlement, elle a désigné celle ou celui de notre communauté à qui elle lègue ses terres et le Sunset Cottage. Puisque j'assure la présidence pour cette session, c'est à moi que revient l'honneur de vous annoncer sa décision. Tous sont suspendus à ses lèvres. Je vous avoue avoir été surprise en découvrant son choix, mais il a été exprimé dans les formes, selon nos usages, et il s'avère aussi authentique que souverain. Pas de suspense inutile, Shona, tranche Hanford, annoncez simplement le nom. Quelques regards se tournent naturellement vers Thornton, dont les liens d'affection avec la jeune disparue étaient connus de tous. Mrs. Brennan saisit un porte-document de cuir brun au pied de son siège et en sort un dossier. Soit. Linda Forsythe transfère donc la totalité de ses biens à M. Christopher Regnard. La stupéfaction se lit sur les visages, sauf sur celui de Thornton, dont le ricanement résonne dans le silence qui s'est abattu sur la pièce. Murray réagit le premier. « Cela n'a aucun sens. Elle ne le... » Shona Brennan l'interrompt sèchement. « Sa décision a du sens pour Linda. Et c'est le seul point qui compte. Son choix est légal et je ne conseille à personne ici de remettre en cause sa dernière volonté. » Les regards basculent sur Chris. Lui qui était venu avec l'idée de se faire le plus discret possible en est pour ses frais. Si tout ceci n'est pas un rêve délirant, il vient d'hériter d'une nouvelle propriété. Pas mal pour un homme à qui celle qu'il avait failli épouser reprochait de n'avoir aucun sens des affaires. Timidement, il demande « Pourquoi ce nom de Sunset Cottage ? ni Landford grille la politesse à la maîtresse de maison. C'est la dernière habitation de Kilthorpe à être touchée par les rayons du soleil avant qu'il se couche. C'était aussi la demeure du capitaine du port. Voilà bien longtemps, avant l'électricité, les habitants avaient coutume de s'y retrouver, surtout l'hiver, pour profiter ensemble de la lumière naturelle jusqu'à la dernière minute. S'inclinant poliment, Chris le remercie de son explication sans prononcer un mot. Dans le salon, chaque seconde de silence qui s'ajoute à la précédente rend l'atmosphère plus pesante. Chacun évalue déjà les conséquences de l'annonce. La tectonique des plaques fait bouger Kilthorpe comme aucun de ses experts ne l'avait prévu. La redistribution des cartes va forcément infléchir le cours de la partie. Pour qui est-ce un avantage? Pour qui un revers? Chris sent que ses voisins attendent qu'il s'exprime. Conscient qu'il n'y échappera pas, il se résout à prendre la parole.
Merci, Mrs. Brennan, pour cette information aussi surprenante pour vous que pour moi. Je ne connaissais pour ainsi dire pas Linda Forsythe. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois et notre rendez-vous fut particulier. D'abord parce qu'elle paraissait terriblement inquiète, perdue et malheureuse. Chris adresse un regard à la ronde. Que peut-il ajouter? Que s'attendent-ils à entendre? Il pourrait s'en sortir en déplorant poliment la perte de Linda avec en prime quelques banalités éculées. Mais Chris sait depuis longtemps que se contenter de débiter aux gens ce qu'ils espèrent ne conduit jamais à rien de satisfaisant. Surtout si on a autre chose à dire. Lui-même a toujours cherché à éviter les conflits, redoutant par-dessus tout de peiner ou de blesser quiconque. Pourtant, son métier, sa mère et la femme qu'il comptait épouser lui ont appris à ses frais que la vérité est toujours le moyen le plus simple, même si c'est rarement le plus confortable. Il se redresse et précise. Il est évident que Linda était une jeune femme fragile. Quelques hochements de tête approbateurs saluent ses paroles. Puis, sur un ton nettement plus grave, il ajoute « Mais elle n'était pas suicidaire. » Quelques murmures s'élèvent dans le salon. Sans y prêter attention, il poursuit « Linda Forsythe cherchait un moyen de s'en sortir, pas d'en finir. J'ignore ce qui a pu la convaincre de me faire confiance plutôt qu'à l'une ou l'un d'entre vous. Le savoir serait pourtant très utile. Comment s'est-elle retrouvée à me préférer, moi, un parfait inconnu, au détriment de ceux avec qui elle a toujours vécu? Je n'ai pas la réponse à cette question. Peut-être l'avez-vous. Qu'allez-vous faire de Sunset Cottage, bougonne James Murray? Vous avez déjà Chief's House à gérer. Vous ne pourrez pas assumer les deux. Vendez. » Son injonction sonne comme un cri du cœur. Chris garde son calme. Sans doute seriez-vous prêt à acheter, Monsieur Murray? Chris croise le regard de Handford, qui se détourne aussitôt. Linda Forsythe ne m'avait pas informé de son intention, continue-t-il. Comme vous, je la découvre à l'instant. D'autre part, Monsieur Murray, ce n'est pas parce que vous avez des doutes sur mes capacités à gérer que je ne vais pas essayer. Vous n'êtes pas le premier à me souffler ce que je devrais faire. Peut-être est-ce une de vos coutumes locales, mais si vous le voulez bien, je vais décider par moi-même et à mon rythme. Chris marque une pause et articule distinctement. Je n'ai voulu aucune de ses propriétés. Murray bondit et hausse le ton. Raison de plus pour les céder à ceux pour qui elles représentent quelque chose. Vous ne me pensez pas légitime? L'êtes-vous? Sérieusement? Au même titre que chacun d'entre vous. Même si je ne sais pas de quelle façon ma filiation me conduit ici, que cela vous plaise ou non. L'homme ne trouve rien à répondre. Je n'avais jamais entendu parler de Kilthorpe, ajoute Renyard. De cette baie, je n'ai d'abord vu que la beauté. Depuis, au-delà des apparences, je prends conscience de ce qui la gangrène. Mystère et intrigue sont partout, s'insinuant dans les propos les plus anodins. En moins de 2 jours, on m'a demandé en mariage, on m'a offert de me racheter ces terres dont j'ignore tout. On m'a aussi fait des confidences. Et on a essayé de me tuer à 2 reprises. Les membres du conseil se raidissent, comme l'espérait Chris. Des exclamations étouffées fusent. La rumeur s'amplifie, mais il ne s'en émeut pas. Alors, puisque l'occasion m'est offerte de m'adresser à vous tous, avec respect, je vais vous préciser mon modeste point de vue. Je pense que Linda Forsythe a été assassinée, comme d'ailleurs plusieurs de mes prédécesseurs. Les commentaires se multiplient et gagnent en véhémence.
Shona Brennan tente de ramener le calme. « Monsieur Renard, je vous en prie, mesurez vos propos. Ce sont des accusations très graves que vous portez là. Qui peut oser affirmer que j'ai tort? Même si vous refusez de l'admettre ouvertement, vous savez que c'est vrai. L'abbé cache un secret, et pour l'avoir trahi, l'un de vos ancêtres a provoqué un massacre. » Peut-être le traître était-il l'un des vôtres, sagace Gillian dit, très remonté. Vous débarquez en ignorant tout de notre histoire et vous avez l'audace de nous juger. Tais-toi, Gillian. La coupe Kirsty Scottson. Laisse-le finir. Il a le droit de donner son avis autant que n'importe lequel d'entre nous. Lui, au moins, le fait en face. Christ reste impassible, attendant de pouvoir reprendre la parole. Le voyant ainsi, Mrs. Brennan frémit. Chris prend son temps pour ajouter « J'ignore tout de ce secret qui vous empoisonne la vie. Mais savez-vous seulement vous-même en quoi il consiste? Par contre, je me demande si Linda a été tuée pour ce que ses aïeux ont pu commettre ou pour ce qu'elle possédait aujourd'hui. L'enjeu de cette question est crucial car le véritable mobile de celui ou celle qui l'a éliminé, qui a orchestré la disparition de mes prédécesseurs et s'en est pris à moi, dépend uniquement de la réponse. » L'objectif est-il la vengeance, ou bien mettre la main sur une pièce du puzzle qui pourra assurer sa fortune? L'emploi délibéré des propres paroles de Linda provoque une vague de réactions que Renard enregistre avec le plus grand intérêt. Il ne relâche pas la pression. Si le tueur a souvi une vengeance, même si ce sont mes ancêtres qui ont trahi, comme Mrs. Dee vient fort aimablement de le suggérer, je ne vais pas l'endosser. On peut hériter d'une propriété, d'un nom ou de beaucoup d'autres choses, mais pas du comportement de ceux qui ont vécu 4 siècles avant vous. » La tension, difficilement contenue de l'assistance, électrise l'ambiance. Renard pose un regard serein sur son entourage. Comme un joueur au tournant de la partie, il s'apprête à abattre sa carte maîtresse. « Je suis convaincu que la personne qui a tué Linda se trouve dans cette pièce. » Une vague d'indignation agite cette fois ouvertement le conseil. Christopher enfonce le clou. « Je suis convaincu que celui ou celle qui a tenté de s'en prendre à moi et qui a sans doute éliminé mes prédécesseurs se trouve parmi vous. » Des protestations outragées éclatent, bientôt suivies de réflexions de plus en plus agressives qui tentent à couvrir ses propos. Certains membres, furieux, se lèvent déjà pour partir. Christopher ne dévie pas de sa ligne et domine le tapage. « J'ignore tout de vos rancœurs et de vos complots, mais je ne vais pas les subir. » Je ne suis pas ici pour assurer ma fortune, mais personne, je dis bien personne, ne me forcera à abandonner ma place. » Cette fois, c'en est trop. Une chaise se renverse, puis le salon se vide en quelques instants, comme si un incendie avait brutalement éclaté. Hommes et femmes sortent en désordre, grondant dans un tumulte de colère et de scandale. Shona Brennan accompagne la meute qui fuit sa maison telle une horde en déroute. Chris n'a pas bougé de son fauteuil et termine tranquillement son sablé. Un seul autre participant n'a pas esquissé le moindre mouvement, Thornton. Il applaudit lentement. Le son claque dans la pièce désertée. « Décidément, vous m'êtes très sympathique, Renard. Merci. Vous savez exactement ce que vous faites, n'est-ce pas? Je l'espère. Vous êtes un garçon étonnant, et je suis bien content de vous connaître. Vous m'en voyez ravi. Soit vous êtes l'un des hommes les plus courageux qu'il m'ait été donné de rencontrer, soit vous êtes un abruti complet. On va vite le savoir. » Le doyen de l'abbé se lève et traverse le salon. « Vous avez donc décidé de vous asseoir à la table et de jouer la partie ?» Chris se met debout à son tour. « Ma foi, puisque je n'ai rien d'autre à faire avant de crever, vous aimez donc jouer. Cela ne me déplaît pas. Alors je vous propose un pari. Si dans 5 jours, vendredi prochain, vous êtes encore en vie, je vous invite à boire un verre et je vous raconte l'histoire de mon whisky. » Chris opine. Le jeu en vaut largement la chandelle. Les deux hommes se serrent la main.